Je vous souhaite la bienvenue de nouveau cet après-midi au nom des membres de l'Académie des lettres du Québec et au nom de mon collègue Georges Leroux qui est absent parce qu'il est en ce moment, il a un enseignement en France en ce moment. Alors je vais rappeler le thème du colloque de cette année, les métropoles culturelles dans l'espace francophone. Comme plusieurs personnes, enfin certaines personnes n'étaient pas là, ce matin je vais relire l'argumentaire qui a été donné aux participants. Alors, d'abord, je dois dire que ce colloque est organisé en partenariat avec l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique, dont le secrétaire perpétuel Jacques de Decker nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Le thème, donc, c'est les métropoles culturelles dans l'espace francophone. Quelles sont-elles et de quel pouvoir disposent-elles? Le manifeste de 2007, publié dans le journal Le Monde pour une littérature monde en français, affirmait que le centre est désormais partout aux quatre coins de la Terre. Dans quelle mesure cet énoncé se vérifie-t-il? Montréal partage avec Bruxelles plusieurs traits qui font de ces villes des métropoles culturelles d'un monde en émergence. D'abord, la diversité culturelle et la cohabitation de communautés très diversifiées, mais surtout, au sein d'un univers marqué par la pluralité des langues, une recherche commune d'accueil dans la langue française. Quel est à cet égard le rôle de la culture et en particulier de la littérature? Comment témoigne-t-elle des enjeux de la diversité dans un univers mondialisé et engagé dans un processus de métissage? Comment ces deux métropoles, toutes deux lieux d'organismes internationaux et de transferts technologiques importants, expriment-elles leur évolution? Suffit-il de multiplier les festivals pour acquérir un statut de métropole culturelle? Comment réagir à la culture spectacle qu'on tente de nous imposer de partout? L'axe qui relie Montréal et Bruxelles est sans doute incompréhensible sans leur commun rapport toujours problématique à Paris. Si Paris, selon l'ouvrage célèbre de Walter Benjamin, a été consacré capitale du 19e siècle, qu'en est-il aujourd'hui de l'influence de la ville Lumière dans la reconnaissance des littératures de langue française? Dans quelle mesure la notion de métropole s'oppose-t-elle à celle de capitale? Alors que l'image du flâneur et la symbolique de la marchandise ont été identifiées comme liées à la modernité urbaine, quelles sont les nouvelles figures littéraires associées au développement des villes? Ne s'agit-il pas d'abord des figures de la diversité, de l'accueil, de l'hospitalité? L'art des métropoles est-il nécessairement cosmopolite? Et quel est son rapport aux appartenances singulières qui l'alimentent et le traversent? Dans un contexte de croisement de langues et de cultures, quel lien se noue entre les écrivains et la ville? Donc, ce sont de vastes questions auxquelles nous avons tenté de réfléchir ce matin et nous continuerons notre réflexion cet après-midi. Après une première table ronde consacrée à la notion même de métropole culturelle, voici celle-ci qui interrogera les enjeux spécifiques aux métropoles culturelles francophones. Alors, le premier intervenant sera théoriquement Jean-Baptiste Baronian, théoriquement parce que il ne peut pas venir et il est remplacé par Jacques de Decker qui a déjà fait la conférence inaugurale. C'est un écrivain d'origine arménienne établi à Bruxelles dès son plus jeune âge et ce qui explique que son œuvre romanesque est principalement cette ville pour décor. Il est très actif au sein des éditions Marabout. Il a été très actif et il consacre en tant que critique un ouvrage fondamental au fantastique, Panorama de la littérature fantastique de langue française, maintes fois réédité. Il est aussi un spécialiste de l'œuvre de Simenon, à qui il a consacré plusieurs ouvrages, et il préside l'Association des Amis de Simenon. On lui doit aussi en folio des biographies de Baudelaire, de Verlaine et de Rimbaud. Donc, il nous a fourni un texte que Monsieur de Decker va bien vouloir nous lire à sa place.
Merci. On aurait dû vous projeter une photo de Jean-Baptiste Baronian. Il est moins chauve que moi, il n'a pas de moustache, il a le teint plus hâlé, il ne porte pas de lunettes sauf pour lire un texte quand même. Son texte s'appelle « Fantôme dans la ville », le génie des lieux. Cette belle formule dont j'ignore la paternité et l'origine me vient souvent à l'esprit. En général, elle évoque pour moi des villes, des sites, des paysages, des décors qui ont nourri l'imaginaire d'un écrivain. Je songe pêle-mêle au Saint-Pétersbourg de Dostoïevski, au Dublin de Joyce, au Paris de Fargue, au Trieste de Saba, à la Provence de Giono, au Bucarest de Mircea Eliade, au sud profond de Faulkner, au Buenos Aires de Borges. Je pense aussi, bien que cela puisse de prime abord paraître moins évident, au Gand de Jean Rey, étant convaincu que la vieille cité flamande l'a directement conduit à la découverte de ces étranges mondes intercalaires, le thème central de son roman Malpertuis et de ses principaux contes fantastiques. Et je reste convaincu qu'une ville ou qu'une région précise peut devenir la matrice d'une œuvre littéraire, le creuset essentiel de tous ses tenants et de tous ses aboutissants. Qu'auraient écrit ces auteurs que je cite et que je range volontiers dans mon panthéon personnel s'ils avaient vécu ailleurs, s'ils avaient eu d'autres attaches géographiques, par exemple Yalta pour Dostoïevski, Belfast pour Joyce, Marseille pour Fargue, Venise pour Saba, la Normandie pour Giono, Cluj pour Eliade, le Connecticut pour Faulkner ou Bahia Blanca pour Borges. Quelles auraient été les incroyables visions de Jean Rey s'il n'avait pas passé des jours et des nuits à déambuler le long des quais et dans les ruelles ténébreuses de Gand, à l'ombre de ses trois tours tutélaires. Va-t-on me considérer comme un énergumène hautement prétentieux si j'enchaîne ici sur mes propres relations sentimentales avec Bruxelles, où j'ai situé la grande majorité de mes romans et qui m'a inspiré de nombreux petits textes de circonstances, à l'instar de ceux que j'ai réunis dans l'album d'après Bruxelles. Ce qu'il me faut dire d'emblée, c'est que je n'y suis pas né. Mes parents s'y sont installés en 1945, alors que je n'avais que 3 ans. J'y ai grandi comme un catch parmi tous les autres catches de mon âge, sauf que dans le milieu où nous vivions, ma famille et moi, il n'y en avait guère. D'ailleurs, je n'en ai jamais connu. Et ce qu'on a coutume d'appeler le folklore singulier de Bruxelles, ses coutumes, ses traditions et son parler si typique et si savoureux, célébré par Léopold Courrouble, Georges Garnier ou Curvin de Marc Tundrich avec ses fables de Pitches Cramouille, ne m'ont jamais réellement influencé. Le Bruxelles intime et populeux, je l'ai pourtant connu assez tôt grâce à mon père, qui aimait beaucoup fréquenter le marché aux puces de la place du Jeu de Balle, et où le dimanche matin, il m'emmenait souvent avec lui. Je ne sais trop ce qu'il y cherchait, car il n'était ni un chineur invétéré, ni un collectionneur. Il n'était pas davantage un homme prodigue, prêt à acheter un joli bibelot et le placer ensuite, bien en évidence, sur une étagère. En revanche, il adorait bricoler, fabriquer des petits meubles d'appoint, réparer des objets, fût-ce une boîte de chaussures, pour y conserver des lettres et des factures, fût-ce une boîte d'allumettes pour y ranger des punaises. Je me souviens qu'il faisait ses choux gras avec un bout de fil de fer ou de carton, des outils rouillés et un tas de bricoles insignifiantes. En contrepoint, ma mère, elle, m'a fait connaître dès mon plus jeune âge le Bruxelles des petites boutiques et des grands magasins, rue des Fripiers, boulevard Anspach, place de Brouckère, rue du Fossé aux Loups, rue Neuve, place Rogier, boulevard du Jardin Botanique. Bien entendu, elle s'y rendait en tram pour faire les courses hebdomadaires de la famille, toujours le samedi matin. Au milieu de la cohue, des bousculades et des crises aiguës des marchandes de 4 saisons, elle trouvait néanmoins le temps et l'occasion de me gâter un peu.
Je vous souhaite la bienvenue de nouveau cet après-midi au nom des membres de l'Académie des Lettres du Québec et au nom de mon collègue Georges Leroux qui est absent parce qu'il est en ce moment, il a un enseignement en France en ce moment. Alors je vais rappeler le thème du colloque de cette année, les métropoles culturelles dans l'espace francophone. Comme certaines personnes n'étaient pas là, ce matin, je vais relire l'argumentaire qui a été donné aux participants. Alors, d'abord, je dois dire que ce colloque est organisé en partenariat avec l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique. Dont le secrétaire perpétuel Jacques de Decker nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Le thème, donc, c'est les métropoles culturelles dans l'espace francophone. Quelles sont-elles et de quel pouvoir disposent-elles? Le manifeste de 2007, publié dans le journal Le Monde pour une littérature monde en français, affirmait que le centre est désormais partout aux quatre coins de la Terre. Dans quelle mesure cet énoncé se vérifie-t-il? Montréal partage avec Bruxelles plusieurs traits qui font de ces villes des métropoles culturelles d'un monde en émergence. D'abord, la diversité culturelle et la cohabitation de communautés très diversifiées, mais surtout, au sein d'un univers marqué par la pluralité des langues, une recherche commune d'accueil dans la langue française. Quel est à cet égard le rôle de la culture et en particulier de la littérature? Comment témoigne-t-elle des enjeux de la diversité dans un univers mondialisé et engagé dans un processus de métissage? Comment ces deux métropoles, toutes deux lieux d'organismes internationaux et de transferts technologiques importants, expriment-elles leur évolution? Suffit-il de multiplier les festivals pour acquérir un statut de métropole culturelle? Comment réagir à la culture spectacle qu'on tente de nous imposer de partout? L'axe qui relie Montréal et Bruxelles est sans doute incompréhensible sans leur commun rapport toujours problématique à Paris. Si Paris, selon l'ouvrage célèbre de Walter Benjamin, a été consacré capitale du 19e siècle, qu'en est-il aujourd'hui de l'influence de la ville Lumière dans la reconnaissance des littératures de langue française? Dans quelle mesure la notion de métropole s'oppose-t-elle à celle de capitale? Alors que l'image du flâneur et la symbolique de la marchandise ont été identifiées comme liées à la modernité urbaine, quelles sont les nouvelles figures littéraires associées au développement des villes? Ne s'agit-il pas d'abord des figures de la diversité, de l'accueil, de l'hospitalité? L'art des métropoles est-il nécessairement cosmopolite? Et quel est son rapport aux appartenances singulières qui l'alimentent et le traversent? Dans un contexte de croisement de langues et de cultures, quel lien se noue entre les écrivains et la ville? Donc, ce sont de vastes questions auxquelles nous avons tenté de réfléchir ce matin et nous continuerons notre réflexion cet après-midi. Après une première table ronde consacrée à la notion même de métropole culturelle, voici celle-ci qui interrogera les enjeux spécifiques aux métropoles culturelle francophone. Alors, le premier intervenant sera théoriquement Jean-Baptiste Baronian. Théoriquement, parce qu'il a dû, il ne peut pas venir et il est remplacé par Jacques de Decker, qui a déjà fait la conférence inaugurale. C'est un écrivain d'origine arménienne établi à Bruxelles dès son plus jeune âge et ce qui explique que son œuvre romanesque est principalement cette ville pour décor. Et il est très actif au sein des éditions Marabout. Il a été très actif et il consacre en tant que critique un ouvrage fondamental au fantastique, Panorama de la littérature fantastique de langue française, maintes fois réédité. Il est aussi un spécialiste de l'œuvre de Simenon, à qui il a consacré plusieurs ouvrages, et il préside l'Association des Amis de Simenon. On lui doit aussi en folio des biographies de Baudelaire, de Verlaine et de Rimbaud. Donc, il nous a fourni un texte que Monsieur de Decker va bien vouloir nous lire à sa place.
Merci. On aurait dû vous projeter une photo de Jean-Baptiste Baronian. Il est moins chauve que moi, il n'a pas de moustache, il a le teint plus hâlé. Il ne porte pas de lunettes, sauf pour lire un texte, quand même. Son texte s'appelle « Fantôme dans la ville ». Le génie des lieux. Cette belle formule dont j'ignore la paternité et l'origine me vient souvent à l'esprit. En général, elle évoque pour moi des villes, des sites, des paysages, des décors qui ont nourri l'imaginaire d'un écrivain. Je songe pêle-mêle au Saint-Pétersbourg de Dostoïevski, au Dublin de Joyce, au Paris de Fargue, au Trieste de Saba, à la Provence de Giono, au Bucarest de Mircea Eliade, au sud profond de Faulkner, au Buenos Aires de Borges. Je pense aussi, bien que cela puisse de prime abord paraître moins évident, au Gand de Jean Rey, étant convaincu que la vieille cité flamande l'a directement conduit à la découverte de ces étranges mondes intercalaires, le thème central de son roman Malpertuis et de ses principaux contes fantastiques. Et je reste convaincu qu'une ville ou qu'une région précise peut devenir la matrice d'une œuvre littéraire, le creuset essentiel de tous ses tenants et de tous ses aboutissants. Qu'auraient écrit ces auteurs que je cite et que je range volontiers dans mon panthéon personnel s'ils avaient vécu ailleurs, s'ils avaient eu d'autres attaches géographiques? Par exemple, Yalta pour Dostoïevski, Belfast pour Joyce, Marseille pour Fargue, Venise pour Saba, la Normandie pour Giono, Cluj pour Eliade, le Connecticut pour Faulkner ou Bahia Blanca pour Borges. Quelles auraient été les incroyables visions de Jean Rey s'il n'avait pas passé des jours et des nuits à déambuler le long des quais et dans les ruelles ténébreuses de Gand, à l'ombre de ses trois tours tutélaires? Va-t-on me considérer comme un énergumène hautement prétentieux si j'enchaîne ici sur mes propres relations sentimentales avec Bruxelles, où j'ai situé la grande majorité de mes romans et qui m'a inspiré de nombreux petits textes de circonstances, à l'instar de ceux que j'ai réunis dans l'album d'Après Bruxelles. Ce qu'il me faut dire d'emblée, c'est que je n'y suis pas né. Mes parents s'y sont installés en 1945, alors que je n'avais que 3 ans. J'y ai grandi comme un Ketch parmi tous les autres Ketches de mon âge, sauf que dans le milieu où nous vivions, ma famille et moi, il n'y en avait guère. D'ailleurs, je n'en ai jamais connu. Et ce qu'on a coutume d'appeler le folklore singulier de Bruxelles, ses coutumes, ses traditions et son parler si typique et si savoureux, célébré par Léopold Courrouble, Georges Garnier, au cœur vin de Marc Tendrich avec ses fables de Pitch Scramouille, ne m'ont jamais réellement influencé. Le Bruxelles intime et populeux, je l'ai pourtant connu assez tôt grâce à mon père, qui aimait beaucoup fréquenter le marché aux puces de la place du Jeu de Balle, et où le dimanche matin, il m'emmenait souvent avec lui. Je ne sais trop ce qu'il y cherchait, car il n'était ni un chineur invétéré, ni un collectionneur. Il n'était pas davantage un homme prodigue, prêt à acheter un joli bibelot et le placer ensuite, bien en évidence, sur une étagère. En revanche, il adorait bricoler, fabriquer des petits meubles d'appoint, réparer des objets, fût-ce une boîte de chaussures, pour y conserver des lettres et des factures, fût-ce une boîte d'allumettes pour y ranger des punaises. Je me souviens qu'il faisait ses choux gras avec un bout de fil de fer ou de carton, des outils rouillés et un tas de bricoles insignifiantes. En contrepoint, ma mère, elle, m'a fait connaître, dès mon plus jeune âge, le Bruxelles des petites boutiques et des grands magasins, rue des Fripiers, boulevard Anspach, place de Brouckère, rue du Fossé aux Loups, rue Neuve, place Rogier, boulevard du Jardin botanique. Bien entendu, elle s'y rendait en tram pour faire les courses hebdomadaires de la famille, toujours le samedi matin. Au milieu de la cohue, des bousculades et des cris aigus des marchandes de 4 saisons, elle trouvait néanmoins le temps et l'occasion de me gâter un peu, tantôt en m'achetant des matchs au bon marché, qu'elle s'obstinait à appeler Wechsler Classe, tantôt en m'offrant une coupe brésilienne au bouquet romain, un établissement de la rue Neuve dont j'ai gardé une image émue dans ma mémoire. Ma mère ne manquait pas non plus de me prendre par la main afin de me conduire à la vieille église du Finistère, où elle faisait brûler un cierge et où, de longues minutes, elle priait à mi-voix, si ce n'est à haute et intelligible voix, comme s'il était toute seule avec le bon Dieu et avec ses saints innombrables. Je me sentais très gêné. J'avais le sentiment que tous les fidèles dans l'église la tenaient pour une maboule. Il ne faut pas chercher ailleurs le génie spécifique de la capitale. Il réside dans son anticlimax. En Europe, aucune métropole, aucune cité d'envergure n'offre sur un espace géographique donné autant d'éléments disparates réunis. Paris, Londres, Amsterdam sont des cités pour ainsi dire uniformes, bien qu'elles renferment chacune des quartiers ayant un tantinet l'apparence d'un village. À Bruxelles, rien n'est pareil. Tout s'y côtoie et tout s'annule. Le plus strict et le plus déglingué, le plus chic et le plus sordide, le plus vétuste et le plus à la page. Vous êtes à la gare centrale, le dernier rêve incarné de Horta, vous en sortez par la salle des pas perdus et les siècles défilent brusquement devant vous, comme si vous feuilletiez un imposant manuel d'architecture. Qu'y a-t-il de commun entre la bibliothèque royale Albert Ier, l'hôtel de ville et les buildings du Kanterstein? Ou, un jet de pierre plus loin, entre la cathédrale Saint-Michel et Gudule et les solides bâtiments bancaires et administratifs de la rue des Colonies? Entre l'église Saint-Jacques de Codenberg, l'étonnante maison Old England, la galerie Ravenstein et la statue hiératique de la reine Elisabeth, dressée tout en haut de la rue de la Madeleine ou, dans l'autre sens, tout en bas du Mont des Arts. Bruxelles, c'est un mécano gigantesque. On l'a un jour, jadis sous naguère, livré à de grands enfants et on les a laissés construire et démolir ce qu'ils voulaient, où ils voulaient, selon leur bonne et leur mauvaise humeur, selon leurs caprices, en se souciant peu de savoir s'ils étaient audacieux ou pusillanimes, intrépides, frileux, dénués de goût ou mégalomanes. Aucun de ces drôles de bâtisseurs ne s'étant jamais appelé Haussmann, il y a eu alors ce que j'ai vu quand j'accompagnais en courte culotte mon père et ma mère, puis ce que je n'ai plus vu du tout au cours des années suivantes, une maison du peuple qui se volatilise, des halles qui se décomposent et se muent bientôt en parking, des quartiers chauds qui prennent l'allure sévère et inhumaine d'un Manhattan en miniature, des fontaines qui déménagent, des salles de cinéma qui étalent des nippes et des godasses, des viaducs qui se changent en tunnels. Sans omettre les matchs que je ne mange plus en regardant les gens et les véhicules aller et venir sans cesse sur la place Rogier, ni mon savoureux et maternel bouquet romain devenu désormais un antre ultra-bruyant de cuisine ultra-rapide. Je ne suis pas un nostalgique du Bruxelles d'hier, de mes émois d'enfants et d'adolescents, du bon temps qui a passé et qu'on ne retrouvera sans doute plus. Cela fait des lustres que je me suis rendu compte, une fois pour toutes, que la ville est un vaste théâtre de métamorphoses et qu'on y vit comme au milieu d'un chantier perpétuel. Mais au fond, je me demande si, précisément, et peut-être paradoxalement, ce n'est pas pour ces raisons que Bruxelles n'arrête pas à la fois de me dérouter et de me fasciner, d'émoustiller les textes que j'écris et de conditionner les errances, les troubles et les folies des personnages que j'essaye de mettre en scène. En réalité, Bruxelles m'intrigue et je m'étonne qu'elle n'ait pas davantage intrigué les écrivains, que ce soit ceux de ma génération ou ceux des générations précédentes. Mon rêve serait d'écrire une énorme épopée, prismatique et follement picaresque, que j'intitulerais « Les mystères de Bruxelles ». Chaque rue, chaque monument, chaque pâté de maison, chaque quartier formerait des chapitres gorgés de personnages libérés des lois pesantes du temps et de l'espace. Il y aurait Hugo en train de composer Les Misérables. Il rencontrerait Dumas et ensemble ils iraient manger à la Grand Place des moules et des frites. Et ils boiraient du Faro et de la Gueuse à satiété. Il y aurait Marx et Engels et ils se demanderaient ce que constitue au juste ces drôles de choses qu'on appelle le capital. Rue des Brasseurs, il y aurait Verlaine et Rimbaud. Ils passeraient leur temps à se chamailler. Ils seraient tour à tour deux arsouilles, deux illuminés et deux sages. Ils seraient tantôt ivres et tantôt terriblement lucides. Ils inventeraient d'autres vies à vivre et d'autres chimères pour affronter le poids insoutenable des choses. Il y aurait aussi Puccini en train de mourir sans avoir achevé Turandot et Cortazar sortant du ventre de sa mère. Il y aurait rue de la Régence, Albéniz en compagnie de Jungen et Hoffmann avenue de Tervuren avec Stockley. Ils seraient chacun une page, un paragraphe, une ligne de ma formidable saga. Et ce serait beau, tendre, gracieux, émouvant, haut en couleurs, riche d'épisodes fabuleux. Ce serait aussi vrai qu'un désir, aussi palpable qu'un mirage. Ce serait mon Bruxelles, et peut-être le Bruxelles de tous les Bruxellois, ceux d'autrefois, ceux d'aujourd'hui et ceux de demain. Ce serait un grand morceau de mes bravoures de papier que je laisserais derrière moi et que j'offrirais à mon père et à ma mère le jour avéré de nos retrouvailles. Merci pour lui.
Je remercie Jacques Dedecker de nous avoir lu ce beau texte de M. Baronian. Belle évocation, fiction de Bruxelles. Alors nous entendrons maintenant Chéri Simon, qui est professeure à l'Université Concordia. Elle est l'auteur de nombreux essais, notamment « Le trafic des langues » et « Gender in Translation », qui lui ont valu plusieurs prix. Dans son livre récent « Traverser Montréal », elle adopte la perspective du marcheur, se déplaçant à travers les quartiers et les époques. Et en suivant les parcours des traducteurs culturels de Montréal, ainsi que les itinéraires d'écrivains et traducteurs contemporains, elle explore l'émergence de nouveaux Montréalais qui refaçonnent les identités. Alors, Chéri Simon.
Merci. Merci beaucoup pour l'invitation de venir ici. Alors, pour parler de Montréal, métropole culturelle, je voudrais d'abord évoquer un film, Bon Cop, Bad Cop. Ce film a été produit il y a quelques années, a eu un succès monstre à Montréal, vous l'avez vu, je pense. Ce film n'est pas notable pour sa trame narrative, qui est plutôt plate et s'appuyant sur des stéréotypes volontairement gros, mais pour un jeu astucieux et parfois brillant sur les langues. Les deux personnages principaux du film, représentant le parfait stéréotype de l'Ontarien et du Québécois, parlent chacun leur langue. Cela veut dire que les deux langues sont entendues tout au long du film et que la trame sonore est la même pour tous les publics, seulement le sous-titrage sera différent selon le public visé. Pour les anglophones, seule la partie en français est sous-titrée. Pour les francophones, c'est l'inverse. La réussite commerciale du film montre que le jeu de langue est en lui-même une source efficace d'humour. Et c'est bien entendu le public montréalais qui a réagi le plus positivement au film, parce que le plus en mesure d'apprécier l'effet d'ensemble, y compris une belle leçon de traduction du joual livrée par l'un des personnages. Cette mise en scène comique de la traduction n'est possible que dans un espace culturel qui conçoit la rencontre linguistique sous l'angle du jeu. La réussite du film est d'autant plus significative qu'il tranche avec une longue histoire où les questions de traduction étaient traitées sous un angle conflictuel, voire tragique. Encore aujourd'hui, certaines institutions et communautés de Montréal se tournent le dos, évitant la conversation et gardant en vie ce que Jean Forêt, dans son roman de 1983, nomme « le mur de Berlin-PQ ». Les séparations persistent, même si par ailleurs la diversité culturelle et linguistique de Montréal ne cesse de s'accentuer, la géométrie des échanges de se compliquer. Pour connaître Montréal, il faut, plus que d'autres villes, l'écouter. Les écrivains montréalais le savent, comme le poète juif A.M. Klein, qui dans les années 40 évoquait la ville par le biais d'une langue inventée, mi-anglais, mi-français, ou les romanciers joualisants des années 60 qui aimaient tant reproduire le langage populaire, parfois anglicisé, de la rue, ou plus récemment encore les langues mixtes du rap ou du spoken word. Pour ma part, j'aime m'arrêter dans les grands parcs et circuler dans la foule, écoutant le mélange des langues, le français et l'anglais se joignant aux langues des nouveaux immigrants et des touristes. Là où autrefois on n'entendait que l'italien, le portugais ou le grec, on entend aujourd'hui de plus en plus le russe, l'arabe, le chinois, le hindi, et j'en passe. Des centaines de conversations paisibles se déroulent en proximité, créant des vagues de voix que l'on peut capter au hasard de la promenade. Cette musique sera différente de celle qu'on entendrait dans des quartiers, où souvent une seule langue va prédominer. Mais pour pouvoir véritablement saisir la réalité culturelle de la ville, il faut ajouter à cette musique de surface un autre niveau de communication. Il faut essayer de saisir les passages entre les langues. Ce ne sont pas les conversations parallèles qui construisent une culture commune, mais bien les nombreux actes de traduction qui permettent une discussion publique et générale. Montréal n'est plus la ville divisée qu'elle était dans les années 50 et 60. Dans l'espace d'une génération, un processus de francisation a eu pour effet la création d'une nouvelle montréalité, une ville cosmopolite où domine le français et où se multiplient les zones de contact et les productions culturelles qui font état d'interférences et du métissage à l'intérieur du français. Comme le métro, creusant des sillons souterrains, a créé de nouvelles proximités entre quartiers distants, le passage entre les langues a permis la création de proximités culturelles nouvelles. Cette évolution n'est pas arrivée à terme, et elle n'est pas sans apporter son propre lot de conflits et de tensions, toujours prêts à réémerger, comme on l'a vu dans les derniers jours. La donne, cependant, n'est plus la même. À l'axe Est-Ouest, qui était l'axe anglais-français, qui a longtemps dominé les relations culturelles à Montréal, s'ajoutent d'autres angles d'interaction qui rendent visibles des identités autrefois occultées. Les anglo-irlandais du sud-ouest industriel, le quartier chinois qui ne se trouvait pas sur la carte puisqu'on avait une carte très limitée, les nombreuses communautés immigrantes qui essaiment partout dans la ville. En effet, si la littérature montréalaise a été dominée pendant des décennies par des récits de confrontation est-ouest, la géographie de son imaginaire a aussi été limitée par une certaine fixation sur les lieux symboliques, comme les quartiers cossus de Westmount ou les quartiers pauvres de l'Est. Cette perspective est en plein changement et les fictions de la ville s'ouvrent à des nouveaux territoires, tant dans les romans anglophones que francophones, à preuve des romans comme « Côte des Nègres » de Mauricio Segura, « La Brûlerie » qu'on a déjà mentionné, ou « Des mondes peu habités » de Pierre Neveu, pour le quartier Côte des Neiges, la petite Italie qu'on trouve dans Nikolski de Nicolas Dukner, Montréal Nord qu'on trouve dans les récits d'Antonio D'Alfonso, le Mile End dans la danse juive de Lise Tremblay ou Hadassah de Myriam Baudouin, ou la banlieue qu'on retrouve de plus en plus d'ailleurs dans le cinéma et dans les écrits comme chez Michael Delisle. Et le roman anglophone également élargit ses horizons. Par ailleurs, si de nouveaux espaces littéraires sont découverts, les anciens sont revisités. Il est frappant de constater comment plusieurs romans récents ont choisi de s'appuyer sur des symboles et icônes traditionnels de la ville, en particulier le boulevard Saint-Laurent, la mythique frontière séparant l'Est et l'Ouest, avec ses résonances contradictoires, à la fois ligne de démarcation, mais aussi point de contact. Saint-Laurent, le boulevard, est un topos riche en raison de son potentiel dramatique. Une ligne de partage demande à être traversée, comme la norme demande la transgression. Et aussi riche de potentiel aussi en raison de ses associations avec la marginalité. Mais cette puissance symbolique persiste malgré les transformations qui, au cours des années, touchent l'identité de la rue. Si son identité en tant que site privilégié pour des activités culturelles a été renforcée par la rénovation du Monument national, la construction du complexe multimédia Excentris et, évidemment, par le futur quartier des spectacles, le boulevard s'est graduel départi de ces institutions qui en faisaient un point de chute pour les populations immigrantes, les magasins, restaurants, associations tenues et fréquentées par des nouveaux arrivants. Tandis qu'une nouvelle élite d'affaires branchée remplace la main-d'œuvre immigrante. Alors, un exemple particulièrement intéressant de ce phénomène est celui de la filiale d'Ubisoft, située dans l'édifice PEC, au coin de Saint-Viateur et Saint-Laurent, où l'on peut constater que les nouveaux travailleurs qui ont envahi l'ancienne usine, originellement construite pour accommoder l'industrie textile au tout début du XXe siècle, mais en ont gardé la disposition identique. Leurs écrans d'ordinateurs installés le long des mêmes rangées et exactement aux mêmes emplacements que les machines à coudre d'antan. Ubisoft tire profit de l'histoire du Mile End en offrant à ses employés un quartier convivial et il va même jusqu'à contribuer à maintenir le tissu social de l'endroit en organisant un festival de rue annuel, tout en réactivant certaines pratiques de l'époque des sweatshops comme des semaines de bien plus que 35 heures. Malgré, peut-être même à cause de ces transformations, trois romans récents anglophones, par exemple, continuent de s'appuyer sur la symbolique ancienne du boulevard. Vous avez « Lullabies for Little Criminals », qui est « Ballade de baby », de Heather O'Neill, un autre roman qui va paraître bientôt en français, « Rocket Bottle Heart » de Zoe Whittle, et « Cockroach » de Rawi Hage, qui lui aussi va sortir en français bientôt, ou est déjà sorti. Alors, chacun des romans adopte un aspect différent pour développer son trame narratif. Le Saint-Laurent du Red Light pour O'Neill, le Saint-Laurent ligne de division pour Whittle, le Saint-Laurent des immigrants pour Rawi Hage. Alors, pour combien de temps encore ce symbole pourra-t-il opérer sa magie alors que le boulevard lui-même n'a plus les mêmes qualités? D'ailleurs, je voudrais souligner ici quelque chose d'assez intéressant qui est la nouvelle vitalité de la littérature anglophone à Montréal. On peut dire que contrairement à ce que disait M. Decker pour Bruxelles, Montréal est assez originale dans la mesure où elle a été appropriée par deux communautés qui se considèrent toutes les deux chez eux à Montréal. Deux institutions littéraires, dans les années 40, surtout la littérature anglophone était très puissante. Il y a eu un moment où le moment de transformation de la francophonisation de Montréal a mis la littérature francophone entre parenthèses, mais on constate, on observe un retour de la littérature en langue anglaise à Montréal depuis quelque temps. On peut se poser la question pourquoi. À mon avis, il s'agit d'une nouvelle littérature anglophone, c'est-à-dire une littérature mineure, une littérature qui est pleinement consciente de se trouver à l'intérieur d'une ville francophone, donc une littérature avec disons des présupposés différents. Et je prends pour exemple le roman justement de Heather O'Neill qui a eu un grand succès, qui est un très très beau roman, Lullabies for Little Criminals, qui fait état de ce que Jocelyn Letourneau a appelé l'interréférentialité. Alors c'est un roman de langue anglaise, évidemment, mais qui ici et là des moments où on se demande dans quelle langue on est. Le personnage principal s'appelle Jules, mais on ne sait pas si c'est Jules ou Jules. Il vient d'un village qui s'appelle Val-des-Loups. À un moment donné, le personnage principal du roman, Baby, cite la vallée des avalées de Régent Duchamp. Alors, c'est quelque chose d'assez nouveau, il me semble, c'est-à-dire un roman anglophone pleinement conscient de se situer dans une ville francophone. Par ailleurs, je pense qu'il faut aussi, quand on parle de l'anglais à Montréal, faire une distinction entre deux anglais, c'est-à-dire un anglais international et un anglais local. Et à mon avis, cette littérature anglophone s'écrit dans une langue locale, c'est-à-dire l'historique langue anglaise de Montréal, avec ses institutions et son histoire. Alors, tout comme la ligne de démarcation change d'identité, cette ligne qui est la rue Saint-Laurent, le passage entre les langues n'a plus les mêmes effets ou la même signification que dans le passé. Si un traducteur comme le célèbre poète et avocat montréalais Frank Scott traduisait Anne Hébert dans les années 60 dans une atmosphère de grand respect, de politesse distante, Jacques Brault va adopter une attitude bien plus agressive dans sa confrontation avec la littérature canadienne anglaise dans les années 70. Et pensons aux gestes de la plus haute importance que sont les traductions du yiddish au français, déjà mentionnées par Pierre Neveu, pratiquées par l'anthropologue Pierre Anctil ces dernières années, qui donnent à la littérature yiddish une nouvelle reconnaissance dans l'espace culturel francophone et québécois. Ces traductions ont le pouvoir de transformation, de transformer les relations entre communautés. Alors, je veux préciser que parler de traduction n'est pas pour promouvoir un idéal de bilinguisme ou de parler de ville bilingue, que ce soit pour Montréal ou pour Bruxelles. Ce mot fort contesté suggère que la relation entre les langues en présence en est une d'égalité et de symétrie. Ceci n'est jamais le cas. Pour l'individu, comme pour la ville, les langues sont dans un rapport mouvant de concurrence, dominant dans certaines zones, subordonné dans d'autres. C'est justement le travail constant d'ouverture et de résistance qui caractérise le contact entre les langues. Alors, tout l'intérêt de l'histoire culturelle récente de Montréal réside pour moi dans la manière dont le français est devenu une langue suffisamment forte et accueillante pour s'ouvrir à des multiples réalités culturelles. Cette capacité d'intégration s'exprime par le grand nombre d'auteurs d'origine immigrante, comme on l'a déjà dit, qui écrivent en français, dont l'exemple étonnant de la japonaise Aki Shumazaki, qui a appris le français au Québec dans la vingtaine et écrit aujourd'hui des romans directement en français. C'est donc le mouvement vers le français qui est le fil principal du récit montréalais. Seulement, comme il se doit, ce passage ne doit pas être conçu comme menant à un ad quem définitif. Chez les auteurs qui illustrent le mieux ce passage, Nicole Brossard ou Jacques Brault, la relation traduisante est pleine de paradoxes. C'est l'épreuve même de la traduction qui importe, peut-être encore plus que la réussite. Qu'est-ce à dire qu'il y a certains bénéfices, voire certains plaisirs, à aller chercher dans l'espace entre les langues, c'est-à-dire dans les rues de Montréal. Merci.
Merci, chérie Simon, pour ces passages d'une langue à l'autre. Donc, nous reprendrons certains points au moment de la discussion tout à l'heure, mais nous allons entendre maintenant Suzanne Jacob, qui est romancière, essayiste, poète, musicienne. Elle a publié plusieurs romans, dont Flore Cocon, Laura Lor, L'obéissance, Rouge, Mère et Fils, Fugueuse, son dernier titre. Son essai La bulle d'encre lui a valu le prix de la revue Études françaises en 1997. Il a été écrit d'autres essais comme Histoire de s'entendre en 2008. Elle a également participé à l'écriture du scénario de La beauté de Pandore, un film de Charles Binamé. Donc, Suzanne, nous t'écoutons.
Merci, merci. Bonjour. Alors, quelles sont les nouvelles figures littéraires associées au développement des villes? C'est une des pistes évoquées dans l'invitation à ce colloque. J'essaie de mettre en regard ma lecture de Mégapolis, de Régine Robin, et de L'assaut contre les vivants, de Paul Chamberlain. À une quinzaine d'années de distance, ces deux livres sont écrits par un jeu autochtone des villes, métropole ou mégapole. J'essaie d'apercevoir comment chacun de ces jeux assure sa continuité de témoin dans sa traversée des villes. Régine Robin se livre à la dévoration de la ville qu'elle dévore en retour. New York, par exemple, lui rentre dans le corps à tout moment. Elle fait corps avec la mégapole et on comprend lorsqu'elle dit s'y laisser dériver et flotter, lorsqu'elle dit vouloir s'y égarer, s'y perdre même, qu'il y a une chose qu'elle ne perdra pas et c'est la tête. La ville aura beau cogner sur le corps, la tête ne perdra pas ses référents, ses fantasmes, ni les écrits, ni le cinéma, ni le rêve. Rien de ce qui amène Régine Robin en ces lieux de perdition, rien de ce qui tournoie et chatoie et miroite d'avance avant la rencontre des corps. La ville peut bien foncer dans le corps de la flâneuse et la flâneuse en elle. Ses assauts n'entameront pas le corpus des référents emmagasinés. Il est fait d'une matière aussi inentamable que le sont la syntaxe et le vocabulaire qui rendront compte de ces intrusions réciproques. C'est ce qui fait se réjouir la voyageuse, c'est ce qui nous fait nous réjouir avec elle. Le corpus ne cède pas. C'est du béton qui jouit de pouvoir recevoir sur sa surface absolument toutes les illusions. Ce sont les illusions qui se casseront la figure, pas la flâneuse. Elle sait qu'aucun stratagème, qu'aucun sortilège ne fera dévier son enchantement. Citant Bruce Bégout, qui oppose l'image du nomadisme motorisé à celle du flâneur, Régine Robin révèle ce qu'il en est. Le flâneur se laisse dériver, flotter, parce qu'en fait, il a la maîtrise du processus. En effet, le lecteur ne peut pas, même s'il en aurait envie, perdre de vue que la flâneuse lit ses journaux tous les jours et qu'elle note sans arrêt dans ses carnets vénitiens, et qu'elle est donc, à travers le rôle de flâneuse qu'elle se joue et qu'elle nous joue, une sacrée bosseuse qui écrit Mégapolis. C'est cela l'enchantement. La majorité des artistes dont elle décrit avec une précision exemplaire le travail sont des gens comme elle, dont le plan de dérive est moins celui de la ville qu'ils traversent que celui d'une œuvre. C'est l'œuvre qui happe la ville et la met en pâte entre ses mâchoires. Dans Mégapolis, il y a pourtant un cauchemar éveillé et récurrent qui menace le confort du corpus de la flâneuse. C'est celui où la petite femme de Michael Snow s'immisce dans les trajets comme si elle avait pris l'auteur en filature et que cette filature avait pour effet de transformer peu à peu ou brusquement tous les visages en un seul visage, celui de Régine Robin. Ce cauchemar, chuchoté d'un double, devient un clone démultiplié à la fin du séjour à Tokyo, je cite, « à mesure que le monorail défilait », ce visage s'affichait à la fenêtre de tous les wagons comme une nouvelle série du temple des mille Bouddhas. Mais ce visage était le mien, reproduit à l'infini, démultiplié, sériel. La métamorphose était devenue complète, je fus saisie de terreur. Puis le monorail disparut dans la nuit, emportant mon visage, mon double, pire, puisqu'on était au Japon, mon clone. J'étais, moi aussi, devenue virtuelle, la flâneuse s'était volatilisée. Fin de la citation. Les effets spéciaux venaient de tourner au drame réel, aurait dit Jean Baudrillard. Est-ce cette seule fiction, ou doit-on ajouter le fait qu'à Tokyo, l'auteur subit l'épreuve de l'analphabète, qui opère un tel changement de posture dans la traversée de Buenos Aires et de Londres ? Comme si l'hallucination terrifiante qu'elle s'était créée elle-même, ajoutée à l'incapacité de lire les logogrammes, avait délivré l'œil de la flâneuse et avait créé une interface inattendue entre le regard et la fibre de l'écriture. Ce qui donnera au lecteur de quoi s'approcher de ce que le livre fuit avec la flâneuse et dont on sentira la douloureuse vibration jusqu'à la fin, alors qu'une mère et sa fille se demandent où rentrer. Et pourquoi pas Montréal ? Pourquoi pas Montréal, je cite, « pesanteur de l'histoire, on ne se refera pas ». C'est bien pour ça qu'on sera bien à Montréal, dans une histoire autre, dans une autre mémoire, dans une parole paumée. Paumée parmi des paumés, immigrante parmi des immigrants, dans le grand cosmopolitisme de notre âge, à la dérive, dans le devenir fragment de nos vies, de la dérive à la déglingue, mais oui. Fin de la citation. Nous voilà de retour à Montréal. Bien piètre consommateur d'essence que celui qui nous attend dans l'assaut contre les vivants. Il fera quelques pas dans Montréal, entre la rue Jeanne-Mance, le Vieux-Port, la rue Bordeaux. Il sera assis un moment à Paris, à la Contrescarpe, partira pour Amsterdam et retour près de l'avenue du Parc à Montréal. Paul Chamberlain est un passant. Dans une politique de la douleur, il dira, naturellement, le mot « passant » est plus sympathique que le mot « sujet ». Dans l'assaut contre les vivants, Paul Chamberlain n'est pas encore tout à fait ce passant, mais un survivant parmi les anthropes déjà décomptés de la planète Terre, devenu une seule, une unique mégapole de banlieue de la Voie lactée. Il se soumet de tout son être d'anthrope à ce qui soumet la Terre d'heure en heure, au bombardement d'informations, aux coulées de boue, à l'irradiation, à la pollution, aux cyclones, aux secousses et aux tremblements, à toutes les déprédations. Il essaie d'être normal, comme tout le monde, il essaie de ne pas se faire remarquer, il veut. Pendant les années que dure l'assaut, l'auteur lit, prononce, mâche et articule, transcrit, cite, répète, souligne en gras, en italique, par des ruptures, des collages, ce qu'il subit comme terrien, comme terreau, comme terre même, humus. Il résiste à ce mitraillage à l'aide de voix de plus en plus lointaines et ténues, celles entre autres d'Anna Arendt, de Marguerite Yourcenar, de René Dumont, de Jean Baudrillard, de Yann Patoka. Il se transforme en une sorte de soucoupe satellite qui mènerait une activité éditoriale singulière, excluant l'énervement, la pamoison, l'étranglement dans la stupéfaction et tout lyrisme. Il prête une attention extrême aux nœuds précaires qui lient à des points fortuits du système nerveux planétaire le courage qui reste, celui du brin d'herbe et du moineau, celui des arbres et des wawarons, celui de tel enfant, de telle femme, de tel nuage. De quelle matière sont donc faits ces liens qui lui permettent de tenir dans l'expérience qu'il fait de la torture infligée au bétail auquel chacun de nous désormais appartient dès lors qu'il est compté dans les statistiques qui le gèrent et qui gèrent sa libido. Nourri de junk thought dont il se fait le destinataire, mais c'est d'un détournement de courrier qu'il s'agit puisqu'il réadresse et réachemine le junk thought après en avoir légèrement corrigé l'assaisonnement. Jusqu'où peut-il aller dans l'accueil et l'hospitalité de ce qui détruit l'habitat des anthropes ? Il s'accroche, je cite, « Je fais tout ce que je peux présentement pour ne pas lâcher le fil de l'écriture, ne pas être éjecté de la cohérence de mots. » Paul Chamberlain ne cède pas jusqu'à l'émergence en lui de cette voix narrative qui trouvera son nom, son vrai nom, dans les déjections d'un Soulon édenté, Lobot. Sa nouvelle voix narrative s'appellera Lobot. Elle est ravie. L'accueil et l'hospitalité de toutes les voies de la destruction ont mis au monde cette créature hybride issue d'une lobotomie et d'une labatte qu'on retrouvera en dernière édition inscrite à l'université en communication. Pourquoi les pères veulent-ils la mort des fils ? Demande Paul Chamberlain le dimanche 4 juin 1989. Mais qui donc en nous doit être interrogé, sondé, pour que vienne au jour la part obstruée de la question ? C'est la question qu'Arthur Kessler met en prologue de sa tragicomédie Call Girls en 1973. Les Call Girls sont des sommités internationales réunies en colloque pour analyser les causes de la maladie humaine, proposer un premier diagnostic, explorer les remèdes possibles. Je cite le prologue. « Père, si tu me vois, comment peux-tu supporter cela ? Si le père se détourne, comment peut-il exister aux yeux de son fils ? J'ai voulu mourir pour te réveiller. C'était la seule raison, car je t'ai cru endormi ou distrait ou occupé à autre chose et j'ai pensé qu'en conséquence, tu ne t'apercevais pas des abominations, ni de la désolation du monde que tu as créé. » Fin de la citation. Paul Chamberlain ne cessera pas d'interroger et de sonder pour faire venir au jour la part obstruée de la question dans une politique de la douleur pour résister à notre anéantissement. Au point où j'en suis, je constate que je viens de traverser des kilomètres et des kilomètres sans me rendre compte que je m'éloignais de plus en plus de ces mots majuscules qui sont pourtant constamment sous mes yeux, les métropoles culturelles dans l'espace francophone. Autrement dit, j'ai complètement perdu la maîtrise du processus. Je me souviens à peine avoir découvert par le net que Montréal s'est donné ce nouveau slogan de métropole culturelle après celui de « La fierté à une ville », nouveau slogan qui a été raffiné, suivant le mot de Nathalie Collard, par Gilbert Rozon en « Montréal, ville de créateurs ». Montréal doit se positionner en ville de créateurs, a-t-il déclaré. Une idée, écrit Nathalie Collard, qui rallie tout le monde forcément, puisque la création est déjà inscrite dans le code génétique de notre ville. Ça semble aller de soi, cette affaire de code génétique, même s'il doit bien s'y mêler quelques bâtonnets de Mgr Bourget, et en dépit du fait qu'on ne trouve nulle part qu'une telle inscription génétique ait été à l'origine de l'œuvre d'un Rimbaud, né dans la bourgade la plus drabe de France, pas plus que d'une Duras, née en banlieue est de la galaxie francophone, sans parler d'une Gabrielle Roy, qu'un certain Montréal ne cessera pas de vouloir refouler dans son Manitoba natal. Je me souviens m'être dit que de toute façon, depuis la destruction de la chaîne culturelle de Radio-Canada comme courroie de transmission entre Montréal et les régions, Montréal n'était plus la métropole culturelle du Québec francophone, Montréal n'est plus que la métropole culturelle d'elle-même, dans la pleine mesure où elle s'auto-déclare l'être, parce que du beurre c'est du beurre, c'est ce que je m'étais dit vaguement, sans preuve. J'avais aussi, mais vaguement, en attendant une fois de plus le CAA pour un survoltage, penser que les textes littéraires n'ont pas attendu le XXIe siècle pour passer les frontières linguistiques et géopolitiques, ni pour se laisser traduire et métisser, emprunter, piller dans toutes les cultures et de toutes les manières, ni pour être honni, brûlé, massacré, démembré, disloqué, haï, adoré, adulé, mémorisé, oublié. Il est aussi difficile de distinguer la nouveauté en littérature que de distinguer entre le Coke classique et le Coca-Cola nouveau. CAA, Québec reparti, j'ai roulé sur les voies de ceinture pour compléter le travail de réanimation de ma batterie en me disant qu'on pourrait tout aussi bien partager les écrivains et écrivaines en piles rechargeables ou déchargeables selon leur façon d'aborder la ville et la ville abordée. Je pensais aussi aux personnages de mes propres romans, Fleur Coucon, Laura Laure, Galatée, Pomme d'Ouli, Delphine, chacune monade, nomade, selon l'expression de Paul Chamberlain, inventant à même la déglingue de la ville, de quoi lutter contre l'extinction de toute parole de femme dans ce qu'on appellerait pour toujours dans l'espace francophone les morts, et jamais les mortes tombant la tête la première dans le néant du neutre grammatical francophone, ou retour à la case départ dans un gynécée universitaire. Mais Galatée m'avait ramenée à Bruxelles, où une femme l'avait traitée de mystique, mystique nom d'un rouge de rouge à lèvres, de nom d'une voiture, nom d'un village du Québec, nom d'une graffiteuse parisienne. Et je me souvenais alors que Bruxelles était aussi dans ce texte préparatoire au colloque. J'avais évité Bruxelles depuis le début de mes réflexions, parce que justement j'en arrivais de Bruxelles, ou plus précisément de Bruxelles Midi, parce que mon fils vit à Liège, que mon petit-fils est wallo-québécois ou belgo-canadien selon son passeport. Ma batterie se rechargeait sans doute, j'avais pris le tunnel, j'allais faire la boucle et reprendre la 40 ouest avec la sensation d'être en train de rouler vers le sud tout en étant sur le quai à Bruxelles Midi en attente du train. Je disais à mon fils en appuyant légèrement mon front contre son cœur, « Nous sommes sur la terre ». Il a dit « Oui, mais pas les deux pieds ». Et je n'ai pas pu rester sur le marchepied à envoyer la main parce que ça ne se fait plus avec les nouvelles portières. On était quand même plusieurs voyageurs à supporter d'être cadenassés ensemble dans ce wagon, à supporter cette intimité qui ne voulait pas se créer, mais qui se créait malgré chacun, du seul fait que nos poumons ne cessaient pas de s'emparer de l'oxygène et de rejeter du déchet à effet de serre sur les autres. Donc, j'étais maintenant sur le pont Champlain, si vous m'avez suivi, et simultanément dans le TGV Bruxelles-Paris. À Paris, je devais passer à la librairie de Régine Robin, chez Chan. Il n'avait rien de ce que je cherchais et il me recommandait de commander ses livres par Internet, les écrits de Laure, entre autres. Et c'était pareil dans les autres librairies. Tous les libraires me donnaient leur adresse électronique et je comprenais que je n'aurais plus jamais à me déplacer de Montréal à Paris pour l'amour d'un livre. Cependant, en passant dans le quartier des Abbesses, j'ai aperçu un livre en vitrine. L'auteur de l'Odyssée. De Samuel Butler, traduit et publié à l'Écluse d'Aval en 2009, 117 ans après la première parution à Londres, une nouveauté. Qu'une femme se soit réfugiée dans le vaste nom d'Homère pour traverser les siècles jusqu'à moi, c'était lyrique. Je serrais mon livre contre mon cœur tellement j'étais convaincue que le vieux Poséidon déclencherait les éléments pour me l'arracher. Voilà, je suis rentrée. J'ai écrit à Nathalie Stephens Nathanael. Chère Nathalie Stephens Nathanael, à mon avis, si l'entre-genre est un mode actuel de déplacement, ça ne durera pas, pourquoi ne pas toutes signer Homer ? Cher et si honoré Paul Celan, écrit de Stockholm Nelly Sachs, votre lettre fut une des grandes joies dans ma vie. Vous avez connaissance de mes choses, vous les avez chez vous. Ainsi ai-je une terre. Ainsi ai-je une terre, écrit Nelly Sachs. Merci.
Merci, Suzanne, de nous avoir fait voyager à travers les mégalopoles et les trains et les quais de gare. Et maintenant, nous allons entendre Jacques Godbout, qui est romancier, essayiste, cinéaste, qui a publié une trentaine d'œuvres qu'on ne peut vraiment mentionner ici, sinon qu'il compte parmi les plus importantes de la littérature québécoise. Ces films sont aussi autant de diagnostics sur la société québécoise et ou de questions posées à cette même société. Il est fondateur de l'Union des écrivains en 1977. Il est aussi éditeur et président du conseil d'administration des éditions du Boréal. C'est donc un double titre d'écrivain et d'éditeur qui prendra la parole. Un écrivain et un éditeur qui connaît d'ailleurs aussi bien le milieu culturel parisien que québécois. Alors, Jacques Godbout.
Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire perpétuel. J'aime beaucoup le mot perpétuel. Chers amis belges, chers amis québécois, quand j'ai accepté de participer à ce colloque, j'avais en tête une image assez précise de la métropole culturelle. Je pensais à Venise, Amsterdam, Paris, Londres ou New York. À l'importance de l'architecture, de l'urbanisme, des arts, des salles de théâtre, du cosmopolitisme d'une métropole culturelle, et je ne voyais pas bien ce que le texte liminaire évoquait en soulevant la question du nombre de métropoles culturelles dans l'espace francophone. Pour moi, il n'existait en francophonie qu'une métropole sur son déclin, Paris, et deux grandes villes, Montréal et Bruxelles. Grave erreur. Je ne tenais pas compte des politiques culturelles. Je ne me méfiais pas de la puissance créatrice des bureaucraties, prête à fausser jusqu'au sens des mots pour flatter les petits et les sans grade. Sait-on qu'il y a plein de capital culturel au Canada ? Grâce à une simple décision du Parlement fédéral, la ville de Trois-Rivières, par exemple, a été récemment nommée capitale culturelle à l'occasion de son 350e anniversaire. Caraquet, célèbre pour ses huîtres et officiellement classée elle aussi capitale culturelle, capitale culturelle, en reconnaissance de son festival de la chanson acadienne et de sa pratique du tintamarre. Y a-t-il une différence fondamentale entre les termes de capitale culturelle ou de métropole culturelle ? Non. C'est vraiment une question d'ordre historique. En Belgique, on parle plus volontiers de métropole que de capitale, peut-être parce que le pays a un passé colonial que ne possède pas le Canada. Mais il faut savoir que la communauté française de Belgique, en vue particulièrement de financer des activités culturelles, peut désigner, comme le fait le Parlement au Canada, toute ville de Wallonie métropole culturelle. En fait, à chacun sa caraquette. Et ça nous fait baisser le caquet. La question de l'importance des capitales culturelles tombe donc un brin à plat. Il y a autant de capitales ou de métropoles culturelles dans l'espace francophone que vous pouvez en désirer. Il faut comprendre que nous nageons dans les meilleures intentions du monde et que cette démarche d'ouverture est née des souhaits exprimés lors de l'importante conférence mondiale sur les politiques culturelles tenue en 1982 sous l'égide de l'ONU. J'ai un texte en 6 points. Ça m'évite d'être obligé de développer une thèse. 2. Je suis tombé dans le chaudron de la littérature française au milieu du XXe siècle. Montréal ne comptait qu'une poignée de librairies soumises à l'index romain, aucune terrasse où prendre un verre ou un café. Ses collèges dispensaient un cours classique datant de 1875. Ses poètes publiés à compte d'auteur dans la plus grande discrétion. À cette époque, personne ne me disputera qu'il n'existait, aux yeux d'un jeune Canadien français, qu'une seule métropole culturelle, Paris. C'était un titre mondial indiscutable, tout intellectuel se référait à la ville lumière. Les écrivains américains en avaient fait, avant la Seconde Guerre, leur lieu de rencontre et d'inspiration. La peinture moderne y avait explosé, la nationalité des signatures était sans importance, Paris attirait des collectionneurs venus comme de nombreux artistes du monde entier. À la littérature française du XIXe siècle, célèbre pour ses auteurs et leurs joutes politiques, s'étaient ajoutés de grands écrivains modernes, Gide, Proust, Malraux, Sartre, Camus, Aragon et j'en passe, mondialement célébrés et vénérés en Europe comme en Amérique. Si la défaite de la France en 1940 annonçait déjà que le pays passait du statut de grande puissance à celui de puissance moyenne, le discours du général de Gaulle et la reconstruction de l'Europe réussiraient pendant de nombreuses années à cacher la lente érosion de Paris comme métropole culturelle au profit de New York et même de Los Angeles. En 1960, le plus profond désir d'un jeune littéraire canadien-français était d'être un jour édité, lu et connu sur la place de Paris. J'ai eu ce bonheur pendant quelques années dans une maison, les éditions du Seuil, dirigée par Paul Flamand. Flamand était un éditeur curieux des littératures de langue française, américaine ou africaine. Il avait fait le choix d'une francophonie éclatée dont Paris serait la plaque tournante, sans pour autant inféoder les auteurs étrangers venus du Maroc, du Québec, du Sénégal ou de l'Algérie à la cité parisienne. C'était une époque de grande ouverture et aussi de grande naïveté. J'avais écrit dans la préface au couteau sur la table mon second roman que dans la francité, nous nous reconnaissions de Dakar à Montréal et plutôt que d'être assimilés aux Français, nous préférions désormais être nous-mêmes en français. Je n'avais rien compris. Une métropole culturelle est d'abord un marché, et les éditeurs parisiens ne pouvaient devenir que des marchands. Pire encore, les années 60 marquaient la fin de la référence littéraire et l'entrée en gare du divertissement occidental. Le projet de s'insérer dans une vaste littérature de langue française s'est donc évanoui dans la francophonie, terme qui a remplacé la francité, et les non-français sont devenus des francophones, une sorte de catégorie d'individus périphériques. Car l'on sait qu'aujourd'hui encore à Paris, les Français ne sont pas des francophones, mais des Français. Philippe Solers ne sera jamais un écrivain francophone, même s'il parle le français, pas plus que Bernard-Henri Lévy. Francophone ne veut pas dire francophone, c'est ce que l'on nomme la clarté française. Devant cette situation d'une métropole culturelle qui refuse d'intégrer ses anciens coloniaux, nos amis, les écrivains voyageurs, ont lancé le label de littérature monde, d'abord dans un article du journal Le Monde, puis dans un livre publié chez Gallimard en 2007. Je pense que cette nouvelle étiquette, calque du World Book anglais, fera long feu et qu'il aurait été préférable de parler de littérature franco-monde. Mais l'Assemblée générale de Saint-Malo, tenue entre le dessert et le café, s'est empressée de nier toute référence aux Français comme si c'était une tare. Pourquoi ce nouveau label ? Parce que, comme l'écrivait Antoine Compagnon dans Le souci de la grandeur, la France a mal pris le tournant post-colonial. Paris s'est accroché à l'exception française plutôt que de se réconcilier avec la diversité culturelle. Pierre Encrevé, linguiste distingué, ajoute que l'ethnocentrisme hexagonal préfère considérer la francophonie sous l'angle de la littérature francophone quand ce n'est pas sous celui d'une organisation politique visant à unir les pays censés avoir le français en partage. Comme s'il n'y avait qu'une seule forme de français partagée par tous les habitants de ces pays, car, ajoute-t-il, généralement, les Français ont la plus grande difficulté à penser le français indépendamment de la France. Ils n'imaginent même pas que l'un pourrait continuer sans l'autre et sursautent devant un écrivain de langue française ne développant pas une relation préférentielle avec cette langue, comme s'il atteignait par là le principe même de la France. Monique Proulx, on se souvient, a dû invoquer ses mamelles auprès des rédacteurs du Nouvel Observateur pour leur faire comprendre le principe en question. Pour l'historien Pascal Blanchard, le problème est celui de la fracture coloniale. Car, dit-il, avec le Japon, dont on a parlé précédemment, la France est la seule nation au monde qui n'a pas encore pleinement intégré dans sa mémoire nationale et collective le temps colonial. Ce fait a inévitablement des conséquences sur la manière dont la France pense la francophonie, sur les processus d'intégration, sur la façon dont elle gère les relations internationales et sur la manière même dont elle pense l'humanitaire ou l'altérité. Il n'est d'ailleurs pas sans intérêt que John Little, l'auteur des Bienveillantes, ait déclaré « Pour moi,